CFM Lacaune, le MAG.
Et le MAG aujourd'hui, eh bien on s'est déplacé comme tous les mardis de l'été
sur une commune de la communauté de communes Mont de Lacaune, montagne du Haut-Languedoc. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'Hérault,
la commune la plus haute de l'Hérault, à Comban et Salvergues. Et autour de la table, je vais commencer par vous, Marie Cazares. Vous êtes maire de Comban et Salvergues et vous êtes aussi en charge pour la communauté de communes et culture et patrimoine. Bonjour Madame Cazares et merci de nous accueillir ici à Comban et Salvergues.
Mais merci à vous, surtout d'avoir choisi Comban donc pour venir en cette journée. Merci bien sûr donc à Radio Lacaune de se déplacer sur le département de l'Hérault. J'en suis ravie et puis très heureuse donc de vous avoir autour de cette table pour pouvoir discuter de notre commune et surtout de notre communauté.
Et alors on a aussi un monsieur avec nous, hein. Il fallait un peu qu'on mette de la testostérone un petit peu dans cette émission. Il y a monsieur Pistre, Robert Pistre, bonjour.
Bonjour, pour dire que je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui à Cambon. C'est une commune qui est très attachante, c'est une commune qui n'est pas très connue du reste du territoire, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est que les gens qui connaissent Cambon, ils sont vraiment très attachés. Dans ma famille, là, j'ai André Roc, qui a écrit beaucoup sur Cambon, et j'ai vu combien il était passionné par tout ce qui s'était passé à Cambon et à Salvergues, et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
Oui, parce que la commune s'appelle Comban et Salvergues. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je suis d'accord avec monsieur Pistre, on ne connaît pas forcément Comban et Salvergues, peut-être si grâce à son restaurant La Clairière, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la commune?
En quelques mots, c'est pour être donc très brève, dont la commune a été créée en 1869, puisqu'au départ donc, elle dépendait du côté de Salvergues par Mosa Trival, et Comban, le village, dépendait de Saint-Julien-d'Olargues.
D'accord.
Et donc, lorsqu'il a été décidé à l'époque donc par les paroissiens de construire une église, il aura été fait la demande donc de créer une commune. Et c'est à ce moment-là, dont l'archevêché d'Albi, si je me souviens bien, qui avait dit qu'il faut créer une commune avant de construire l'église. Et c'est à partir de là que la commune donc a été créée. Et donc, c'est l'église donc de Salvergues qui a été construite avec les pierres qui dépendaient des ruines de Saint-Pierre de l'Espinaude.
L'autre particularité aussi de Comban, c'est quand même c'est la commune la plus haute du département de l'Hérault. Combien d'altitude ?
Brézières, qui est le point culminant de l'Hérault, à 1152 mètres d'altitude. Et puis nous avons la particularité quand même d'avoir la naissance de la source à gouttes, puisqu'elle prend sa naissance côté Hérault et qui va se jeter donc dans l'Atlantique à Saint-Sulpice. Et nous sommes donc sur la ligne du partage des eaux.
D'accord. Donc, une commune finalement peu connue, mais qui a son importance à la fois climatique, environnementale, et puis avec une histoire très riche. Parce que j'ai pu noter, je suis allée faire un petit tour quand même, avant de venir ici, je suis allée faire un petit tour sur le site de Comban et Salvergues, le site de la mairie qui est très bien fait. Il y a beaucoup de patrimoine bâti, on parle de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, il y a aussi le four communal qui aujourd'hui est allumé. J'ai vu. Hein. Alors, est-ce qu'il est tous les jours allumé? Non, c'est parce que demain, c'est le 14 juillet, c'est ça. Et il y aura une petite fête. Il y a la chapelle de Saint-Martin du Froid. Il y a le hameau et l'église de Salvergues, l'église de Saint-Pierre de l'Espinouse. Et puis, il y a de l'histoire des... Enfin, l'histoire de Comban et Salvergues commence dès la préhistoire avec des statues menhirs. Et puis, ensuite, il y a la voie romaine. Il y aurait même peut-être le chemin de Saint-Jacques qui serait passé ou pas, on ne sait pas en fait, s'il n'y avait pas quand même un petit passage vers ici. Et puis, donc voilà, une histoire très très riche. Peut-être vous, en tant que maire, est-ce qu'il y a un monument ou un endroit que vous conseillerez de visiter si on venait à Comban?
Donc, il faut inévitablement aller à Saint-Martin-du-Froid. C'est notre point stratégique. Il y a une vue panoramique exceptionnelle donc, sur le vignoble, sur la plaine languedocienne. Et nous sommes dans pleine réserve de faune et flore sauvage. C'est un point particulier, donc magnifique à observer, à se reposer et puis surtout à méditer lorsqu'on en a vraiment besoin.
D'accord. Et c'est un ancien... Alors moi, j'ai vu que c'était un ancien lieu de culte druidique.
Alors, c'est pas que nous avons découvert ce qu'il existait. Moi, je l'ai vu par hasard. J'ai fait venir donc les services culturels du département. Et il y avait donc une tombe wisigothique avec... un genre donc de cercueil qui était donc déjà coupé en 1000 morceaux où les visiteurs du secteur faisaient des criades à l'intérieur. Donc mon premier souci a été donc de le mettre à l'abri dans cette chapelle. Donc aujourd'hui il y a ces vestiges de cette tombe.
D'accord. Donc ben voilà, à aller voir absolument si vous venez sur la commune de Comban et Salvergues. On va passer la deuxième. Dites-moi, Monsieur Pistre. Oui.
Je veux faire une remarque. C'est que ce qui est attachant ici, c'est les gens. C'est pas les monuments.
Oui, moi, moi, je parle des monuments, mais vous avez raison.
Je suis frappé. À Nage, j'accueille des fois des élèves de l'école des mines et je vois deux populations différentes. Il y a ceux qui veulent faire des randonnées parce que ce qui est beau, c'est les paysages, et puis ceux qui veulent voir les gens. Et ici, pour moi, ce qui est intéressant, c'est les gens. Quand on voit des gens comme vous, comme Zézé, comme tout ça, c'est
Alors, je vous coupe, mais qui est Zézé? Parce que, bon, peut-être que tout le monde ne connaît pas Zézé, ça a l'air d'être une figure marquante.
Je laisserai Maria peut-être vous dire qui est Zézé.
Alors, pour tout vous dire, je l'ai convié à venir aujourd'hui. Il était partant, bon, il a quelques soucis de santé, mais c'est la mémoire vivante locale aujourd'hui. Zézé, qui ne connaît pas Zézé? C'est le loup blanc, il est connu sur tout le territoire. Donc tout à l'heure, il m'a téléphoné, en discutant, il m'a dit « je suis désolé, mais avec ce temps, bon, comme je vous dis, il a quelques soucis de santé. » Il me dit « il fait humide, dans cette salle, il fait froid, puisqu'on ne pourra pas être à l'extérieur. » Il regrette vivement, mais c'est quelqu'un qui vit à travers le patois, votre Occitan local. Il se serait fait un plaisir de partager avec vous quelques anecdotes. Mais voilà, il n'a pas pu venir. Zézé, c'est vraiment un personnage.
Si vous voulez, Zézé me paraît très significatif du bien, c'est-à-dire que tu vis avec quoi? Et c'est lui qui a eu l'idée de commercialiser la terre de Bruyère, parce que, si vous voulez, ailleurs, il se demande s'il faut du fromage ou de la charcuterie. Et ici, ben, il ramasse la terre qu'il y a dans la nature. Et il a créé un commerce de, mais plein de choses. Il avait le négoce de plein de sujets. Et on a fait un article sur lui. C'est vraiment quelqu'un de, sa famille tenait l'hôtel-restaurant du village. Enfin, pour pas essence, il y a, lui, c'est vraiment toute une histoire. Et pour moi, ce qui est important ici, c'est justement ces personnages-là. Et vous, Maria, vous en faites partie aussi. C'est pas pour vous passer de la pommade, mais c'est parce que je le pense sincèrement. C'est que justement cette terre ingrate a suscité des personnes qui font que elles ont su se débrouiller avec pas grand chose pour survivre. Et c'est ça qui me paraît être vraiment l'essence de ce village.
Je disais que pour en revenir à Zézé, et puis s'il faut couper donc sur ce thème-là, mais je l'ai toujours considéré, j'ai toujours dit donc à son épouse qui est mon amie, c'est un bâtisseur. Tous les jours, il a une idée nouvelle, il remet quelque chose donc en route. Et tout le temps, il a fallu qu'il crée, qu'il fasse, qu'il observe, qu'il construise. Il n'arrête pas, même à son âge aujourd'hui, même s'il est fatigué, il a toujours mis l'idée en tête. Et Monsieur Pistre, quand vous me dites, vous ne me passez pas de la pommade, les mots que vous venez donc de prononcer me touchent sincèrement. Il est vrai que je suis quelqu'un qui a mis l'idée. Tous les matins que je me lève, j'ai des projets en tête. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de les mettre en œuvre.
Pour la fête du village, il y a un repas de 800 personnes servi par les gens du village et préparé par Madame le maire. Donc ça, c'est exceptionnel. Je veux dire que, alors qu'il y a deux pelés, trois tons d'hiver, si je peux m'exprimer ainsi.
C'est vrai que cette fête de la Magne, qu'aujourd'hui, pour la deuxième année, donc on ne peut pas donc de nouveau la mettre en œuvre puisqu'elle attire, comme disait Monsieur Pistre, donc quelques 800 participants, 500 repas. Et c'est vrai que, en toute modestie, je dois dire que je suis un petit peu à la tête de cela. Au départ, cette fête de la montagne donc, avait été créée pour restaurer l'église de Salvergue, la toiture. Donc moi, j'étais fraîchement arrivée ici. Je suis arrivée donc, en 1987, en résidence secondaire. Et quand je suis arrivée, je suis quelqu'un de très entreprenant. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. Et que j'ai vu donc ce petit village, bon à ce moment-là il y avait quand même une centaine d'habitants, aujourd'hui on en est tombé quand même à 48, donc vous voyez un petit peu la dégradation et puis le temps passant là-dessus, les marques qu'il laisse. Donc je m'étais tout de suite investie parce que tout le temps j'ai fait du bénévolat et donc avec un de mes prédécesseurs, donc Charles-Félix Estournette qui était maire, on avait fait, avec Jean Arcas qui était conseiller donc général de ce canton, ils avaient monté, bien sûr, des dossiers de subvention pour refaire donc la toiture de l'église de Salvergue qui était fortement dégradée. Donc à ce moment-là, ils ont créé la fête de la montagne, ils ont créé la confrérie des chevaliers de l'Espinouse, justement pour essayer d'aller chercher des financements pour réaliser ces travaux. Donc tout de suite, je me suis portée donc volontaire. La première année, ça s'est fait sur Salvergue. Bon, ça avait quand même attiré quelques participants qui venaient, qui s'y intéressaient. Et petit à petit, Monsieur Estournet, donc avec qui j'avais lié quand même donc des relations très amicales, un jour m'a dit, eh bien écoute, l'année dernière ça n'a pas bien marché, moi je n'y étais pas dans cette association, encore je m'étais portée volontaire, m'avait dit, écoute, il faut que tu rentres dans l'association, tu en deviens secrétaire. Contrainte et forcée, évidemment, j'ai accepté. L'année d'après, il m'a dit, non, il m'a dit, toi tu vas passer présidente. Donc je suis restée 22 ans présidente de cette association. Et mes fonctions d'élu m'ont un petit peu donc fait réfléchir. Je me suis retirée de cette vice-présidence, j'ai laissé ma place. Mais pour vous dire qu'à l'époque, donc, j'étais en activité, j'étais dans le domaine de la restauration. J'avais un petit peu l'habitude donc, des camps de quantité, si je peux dire, mais pas de ce nombre-là. Donc, avec quand même de l'aide que j'avais autour de moi, je ne suis pas seule en cuisine. Hein, mais c'est vrai que j'ai été la locomotive pour mettre donc, tout ça en route. Et petit à petit, on a commencé donc par 300, 400 repas. On en est arrivé à 550. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que je le suis encore un petit peu aujourd'hui quand même, il faut le dire, hein, aux manettes donc de cette cuisine qui est quand même pas gastronomique, qui est très familiale, mais très appréciée.
Oui, je voudrais faire une remarque justement pour la communauté de communes qui me paraît importante. Et cette commune Cambon et Selverg me paraît significative. C'est-à-dire que ici, on voit l'importance des résidences secondaires. Et je pense que quand je lis les Libérations, tout ça, les élus de cette région s'intéressent aux habitants qui habitent là. Et les résidences secondaires impassent. Pas méchantes, je veux dire. Alors que ça me paraît, pour moi, être un point très important, parce que les gens qui viennent ici... En vacances, ce sont des gens qui sont prêts à s'impliquer, qui s'impliquent d'ailleurs. Les 750 repas d'ici, c'est qu'à la résidence secondaire, pratiquement. Donc, les résidences secondaires savent s'impliquer, contribuent à la vie locale, et puis aussi peuvent apporter par leur relation une série de choses pour les gens du pays. Par exemple, trouver un stage pour les enfants et tout ça. Et donc, je trouve que il faudrait qu'il y ait une politique de la communauté de communes à destination des résidences secondaires, si vous voulez. Qu'il y ait un chapitre, voilà, qu'il y ait un vice-président de la communauté de communes chargé des résidences secondaires. Ça me paraît important pour la vie, parce qu'aujourd'hui, il se crée une vie temporaire. Vous êtes temporairement ici, vous n'êtes pas ici toute l'année. Et donc, il faut aussi considérer que la vie de cette communauté de communes vient de ceux qui vivent ici toute l'année, et puis également de ceux qui n'y passent qu'une partie de leur temps. Et ces personnes qui passent de leur temps sont, exemple montre ici, plus importants que les habitants permanents. Voilà, merci.
Pour conclure ce que vous venez de dire, vous m'avez cité en tant que temporaire. Moi, on m'a classée en tant qu'intermittente. Donc, vous voyez un petit peu le terme. Mais cela, bon, je le prends avec plaisir et puis ça me fait sourire. Il est vrai, mais c'est vrai. Même si je passe 90% de mon temps ici, parce que je m'investis énormément au niveau donc, de la commune et maintenant au niveau de la communauté. Mais quand vous dites les résidences secondaires, c'est vrai. Si on n'avait pas les résidences secondaires, quand vous pensez que nous sommes 10 habitants permanents au village en hiver, comment voulez-vous en été réunir 30 bénévoles autour pour créer une animation ? Il faut bien compter donc sur les résidences secondaires.
Et si vous voulez, vous avez 90%. Moi, ce que j'ai observé à Nage, par exemple, il y a un gars qui s'appelle Bernard Astruc qui a créé la bourrée montagnarde. Et plus il se crée, plus il animait sa bourrée montagnarde, plus il passait du temps ici. Si vous voulez. C'est-à-dire que le fait pour résidence secondaire d'être impliqué dans la vie locale l'amène à aimer se retrouver ici et tout ça. Et donc c'est pour ça que, si vous voulez, une politique intelligente des résidences secondaires devrait être un chapitre très important dans la politique communauté de communes. Merci.
Merci à vous, Monsieur Pistre. On note l'idée. Ce que je vous propose, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. On sera toujours à Cambon et Selverg, toujours avec Robert Pistre, qui s'occupe notamment de la Gazette des Amoureux des Monts de la Conne et du blog du Biais. Et puis, bien sûr, Marie Cazares, la maire de Cambon, qui nous reçoit aujourd'hui.
CFM La Conne. Le Mag.
Merci d'être à l'écoute du Mag. C'est la seconde partie de votre émission quotidienne. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Cambon et Selverg. Vous le savez, durant tout l'été, on va se promener sur certaines communes du territoire. Le thème du jour, c'est le patrimoine et la culture. Et pour parler du sujet, autour de la table, il y a Marie Cazares, maire de Cambon et Selverg. Merci d'ailleurs de nous recevoir. Mais vous êtes aussi vice-présidente en charge pour la communauté de communes de la culture et du patrimoine. On va en dire un mot dans un instant. Et puis, il y a de l'autre côté côté de la table, Robert Pistre, bien connu hein, du côté de Nage notamment. Il est l'initiateur du CRPR, le Centre de Recherche du Patrimoine de Rue Montagnier. Et puis actuellement, il s'occupe de la Gazette des Amoureux des Monts de la Cône et puis du blog du même nom. Merci donc tous les deux d'être là. En première partie d'émission, on a abordé déjà certains sujets. Là, j'ai envie de parler du nouveau centre pôle culturel de la Cône, de la communauté de communes qui est en train de se monter, et notamment de la salle de spectacle. Alors, peut-être la première question, c'est quand est-ce que nous pourrons voir ces premiers spectacles, Madame Cazares ?
Voir des spectacles, on a commencé hier déjà. Parce que, je plaisante quand je dis cela, hein. C'est parce que le pôle, il est en construction, bien entendu. C'est vrai que c'est une lourde charge de travail, de responsabilité, la culture, le patrimoine, la communication. Pour moi, donc, ce sont des délégations tout à fait nouvelles. Je ne les ai pas prises, on me les a proposées, j'ai accepté. C'est très lourd, compliqué. Donc, comme je vous disais, ce sont des dossiers que je ne connaissais pas bien, puisque je n'y étais pas du tout donc, investie. Je les découvre, mais je profite de cette occasion quand même pour vous dire que je suis très bien entourée par rapport donc, aux techniciennes qui m'aident. Ce sont des perles, ce sont vraiment des ressources et une patience qu'elles ont avec moi et que j'apprécie énormément, qui essaient donc, de m'aiguiller, de m'éclairer, de m'accompagner. Et chaque fois que j'ai un souci, elles ont la réponse qu'elles m'apportent. Donc, pour en revenir, donc merci à elles. Le pôle culturel, aujourd'hui, donc, bah, écoutez, il a pris forme. Il avance dans sa construction. Quelques petites, peut-être un petit retardement donc, dû donc, à des modifications de la toiture demandées donc, par les Monuments de France. Nous espérons donc, qu'il sera terminé en 2022 pour peut-être une ouverture...
Septembre 2022 ?
Voilà, septembre 2022. Nous avons en ce moment donc un programme, on a créé donc des groupes de travail pour réfléchir avec des locaux. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que ce pôle culturel n'est pas fait que pour la Cône. Dans ce pôle culturel, il va y avoir donc trois thèmes. Il va y avoir l'office de tourisme, il va y avoir donc le pôle culturel pour des spectacles et il va y avoir donc une partie aussi bibliothèque. Ce qui veut dire qu'il va réunir trois entités, donc nous espérons qu'à travers l'une ou l'autre, il va vivre pleinement.
Et puis aussi l'idée, c'est, je suppose, quand il y aura une thématique qui sera abordée dans la salle de spectacle, cette thématique va être reprise dans d'autres villages. Je vais prendre un exemple, parce qu'on en a parlé un petit peu hors micro. Si on fait un sujet sur la résistance, je ne sais pas, un ballet sur la résistance à la salle de spectacle, pourquoi pas avoir une conférence à Cambo-et-Salvergue et puis une exposition du côté de Nage.
Exactement, c'est le but recherché pour que ce pôle rayonne sur tout le territoire.
Est-ce qu'il y a aussi des partenariats qui vont être créés peut-être avec d'autres structures culturelles du département ou du Tarn ou de l'Hérault hein ? Est-ce que ça, c'est prévu ?
Bien entendu, c'est évident et il ne faut pas s'en priver. Donc, nous avons déjà pris donc, des contacts donc, avec Scène nationale d'Albi, donc côté Tarn, et nous sommes arrivés donc, à faire pareil, Scène en Hérault, donc avec le côté départemental donc, du département de l'Hérault. Bien entendu, il ne faut pas s'en priver, il faut surtout s'en servir.
Donc ça, c'est le prochain, donc le pôle culturel, la salle de spectacle qui va voir le jour. On en refera une émission. Alors, elle n'a pas encore de nom, cette salle de spectacle. Je crois qu'il va y avoir un petit sondage, un petit concours qui va être lancé.
Bien, déjà, le groupe de travail a réfléchi. Certains donc, ont donné donc, quelques noms. Mais nous souhaitons donc interpeller et avoir l'avis de la population du territoire, que chacun apporte donc une idée. Et ensuite, bien sûr, il y aura un classement, il y aura un choix que je pense ne sera pas facile à faire. Mais il faudra bien la nommer, c'est certain.
On reviendra, ça sera pour une prochaine fois. Hein. On reviendra voir Madame Cazares, où on ira voir les techniciennes. On les salue, elles sont avec nous dans la pièce. Et du coup... C'était aussi important de dire un mot et après on va terminer l'émission parce qu'on a un petit peu dépassé le temps. Juste un petit mot sur le centre des mégalithes de Murat-sur-Vèbre, alors le centre d'interprétation, voilà, il me manque un mot, des mégalithes qui est aussi un lieu important parce qu'une histoire importante de notre territoire.
Alors c'est très important, donc bien sûr il n'est pas nouveau, il existe, hein, donc il y a vraiment des ouvrages remarquables à l'intérieur dont nous avons pour idée, donc qui est déjà en route aussi, donc d'essayer de sensibiliser la population qui détient donc des œuvres chez elle et qui ne souhaite pas ou qui appréhende donc de les mettre donc ça c'est le deuxième projet hein, pour les mettre pour les sauvegarder en fait.
On parle des statues minières ou des minières hein, que...
C'est ça en général hein, donc le centre aujourd'hui il est déjà donc il est joli, il est beau, il est visitable donc il est accessible donc au public. Il y a des œuvres comme je vous disais donc remarquables. Mais il va peut-être donc falloir continuer à réfléchir donc sur son aménagement, ce qu'il est donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut en devenir pour de dire d'avancer dans le temps et de le promouvoir au-delà de ce qu'il existe aujourd'hui.
Et je crois qu'il va être aussi relié avec un projet régional autour des mégalithes, des menhirs, des statues menhirs.
Alors, il y a donc le projet scientifique et culturel donc, qui est mené par Haute-Terre-Doc, donc avec les services du département du Tarn, donc de la DRAC, et nous sommes entourés donc par des spécialistes dans le domaine. Hein. Donc, ce projet scientifique et culturel, donc, c'est au niveau régional. 4 départements donc, sont partants. Nous avons donc des réunions régulières. Donc, il y a le département de l'Hérault, bien sûr, il y a le département du Tarn, l'Aveyron et le Gard. Donc l'idée, c'est d'en faire donc, la route des mégalithes qui sera reconnue au niveau régional, mais au-delà de la région.
Eh bien, ça sera aussi un dossier à suivre. Monsieur Pistre, Madame Cazares, je vous remercie. On se retrouvera pour une prochaine émission, toujours depuis Cambon et Salvergue, un village que je vous invite à visiter et pas que l'été. Ben voilà, merci beaucoup Madame